Aujourd'hui, nous pouvons mettre nos pas dans les pas des mages. Eux qui sont venus adorer le Seigneur, ils sont passés par des étapes, par un cheminement. Nous aussi, dans la foi, nous avons un cheminement. C'est-à-dire que nous commençons, nous avançons, parfois nous reculons, et puis nous allons jusqu'à un certain point. De même que les mages ont cheminé, nous aussi nous cheminons. Où en sommes-nous de notre cheminement dans la foi? Parfois nous avons bien commencé, mais nous nous sommes arrêtés. Nous sommes arrêtés pour diverses raisons. Nous avons pu nous arrêter parce que nous estimons que nous sommes déjà arrivés à un point plutôt pas mal, d'ailleurs, surtout quand on regarde les autres, parce que les autres sont quand même très médiocres, et que nous on l'est aussi, bien évidemment, mais un peu moins que les autres. Alors du coup, on se dit que, puisqu'on a la moyenne, pourquoi continuer à travailler? C'est peut-être une première raison. Une autre raison, c'est que l'esprit du monde, petit à petit, s'est infiltré dans nos mentalités, et que l'Évangile n'a plus sa force transformante, et que nous nous laissons comme séduire par le monde et ses tentations. L'argent, la consommation, le pouvoir, les inquiétudes, bref, nous nous affadissons. Une troisième raison possible, c'est tout simplement que ben on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Ben oui, on voudrait être patient, on ne l'est pas. Être dans l'accueil, mais parfois en critique, on est jaloux, on est un peu mesquin. Bon, c'est pas très glorieux, alors on donne le change, parce qu'il faut bien. Mais nous sommes sur un constat d'échec, et donc nous nous arrêtons. Nous arrêtons en route. C'est de l'orgueil que de désespérer. L'orgueil, c'est de croire qu'on s'en sort par soi-même. Le désespoir, c'est la même chose, sauf qu'on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. Mais en fait, ça reste de l'orgueil, sauve-toi toi-même. La véritable humilité, c'est pas seulement de reconnaître que nous n'y arrivons pas, mais c'est de demander au Seigneur que lui le fasse, et de poser un acte de foi dans la puissance agissante de Dieu dans notre vie. Et parfois, le Seigneur nous mène au pied du mur pour que nous prenions bien conscience que par nous-mêmes, par nos propres forces, nous n'y arrivons pas. Et là, soit on s'éloigne tout triste, tel le jeune homme riche, soit on fait un petit compromis, pas mal, soit on plonge. Et plonger, eh bien c'est cette phrase, « Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. » Plonger, c'est dire « Mais toi, Seigneur, fais-le en moi. » Plonger, c'est demander que le Seigneur, comme un Marguerite Marie, prenne notre cœur, le plonge dans le sien, pour qu'il y soit tel un atome dans une ardente fournaise et qu'il nous le rende enflammé et transformé. Et c'est lui qui le fait. Et il nous fait d'autant plus sentir que c'est lui qui nous fait, qu'avant il nous a fait sentir que par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Et le constat de notre petitesse et de notre incapacité à répondre à l'appel de Dieu ne doit pas nous mener à la tristesse, mais au contraire, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, mais aussi Marguerite Marie, doit nous mener à la joie. Vous voyez, à un moment, le Seigneur demande à Marguerite Marie quelque chose, et elle dit « Je lui montrais mon impuissance ». C'est magnifique. Mais après, le Seigneur lui dit « Moi, je serai ta force ». Et il prend une flamme de son cœur et il la lui met dans la poitrine. Le cheminement des rois mages comporte fondamentalement trois étapes. La première étape, c'est l'étoile. L'étoile, c'est le retentissement de la naissance du Seigneur dans tout le cosmos. Le cosmos, le monde créé, le monde visible, jubile. Il y a un retentissement cosmique à la naissance du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Si certains parmi nous sont tentés par l'astrologie, oui, alors je sais bien que, comme un peu tout le monde, il dit « Oui, mais moi je le lis, mais c'est juste pour voir, ça, j'y crois pas du tout. » Ah bah non, oui. Et la Bible, tu y crois? Ah bah oui, j'y crois, d'accord. Et tu passes plus de temps à lire la Bible ou à lire l'astrologie? Parce que si tu passes plus de temps à lire l'astrologie auquel tu ne crois pas, auquel tu prétends ne pas croire, et que tu prétends croire à la Bible que tu ne lis jamais, il y a peut-être un problème. Et oui, parfois, on se donne des bonnes petites excuses qui permettent de camoufler nos ambiguïtés. Ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Par contre, qui est évidemment tout à fait contraire à la foi chrétienne, le Seigneur nous a libérés d'un espèce de destin inscrit dans les astres. Notre destin, il est inscrit dans le cœur de Dieu. Et c'est un appel qui nous laisse libres et qui nous rend libres. Et donc, suivre Jésus-Christ comme sauveur nous fait renoncer à l'astrologie, au médium, au guérisseur, à toute forme de divination, à cartomancienne et toutes ces pratiques occultes que le Seigneur, justement, vient libérer de nos cœurs. Et si nous avons posé des actes comme cela, ou si nous avons eu recours à de telles pratiques, eh bien, humblement, nous devons demander pardon au Seigneur et demander qu'il nous libère des liens spirituels négatifs qui ont été contractés à ce moment-là. Ça s'appelle la confession. Ben voilà, mon père, je viens me confesser parce que, voilà, j'ai 60 ans, mais quand j'en avais 18, eh bien, j'ai été voir une cartomancienne parce qu'une amie me l'avait recommandée. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai manqué de confiance en toi. C'est un manque de confiance en la providence divine que de vouloir savoir ce qu'il y a dans le futur. Puisque ce qu'il y a dans le futur, c'est dans le cœur de Dieu. Nous n'avons pas besoin de le savoir prétendument pour nous y préparer. J'en reviens à l'astre qui est le retentissement cosmique de la venue du Seigneur. La nature est un chemin vers Dieu. Il est bon que nous retrouvions l'émerveillement devant la nature telle qu'elle est, par exemple, en Bourgogne, avec la Bourbince, avec le parc, avec les arbres, avec les oiseaux, de retrouver cette nature, ces champs, ces vaches, comme un chemin vers Dieu. Oui. Tout ce que tu as créé est dans ta main et me parle de toi. La création devient un langage qui nous parle de Dieu. Et Dieu nous le donne pour que nous puissions l'écouter. C'est ce qu'on appelle le don de science. La science, c'est de voir ce qui est créé comme un langage du Créateur. Mais ça ne suffit pas. Parce que cette étoile, elle conduit à Jérusalem. Et là, il faut la deuxième étape, qui est l'écoute de la parole de Dieu. Dieu a parlé et Dieu a prophétisé, Dieu a annoncé la venue du Sauveur, qui n'est pas accessible par la simple raison, tout simplement parce que Dieu a choisi ce qui avait de plus petit pour révéler sa grandeur. Et donc c'est Bethléem qui est en fait la plus petite ville de Juda, mais qui en fait n'est pas la plus petite ville de Juda parce que c'est cette petite ville-là que le Seigneur a choisi pour qu'il naisse le Sauveur. Et ça, notre petite tête, elle n'arrive pas à l'élaborer tout seul. Nous avons besoin de nous mettre à l'école de la parole du Seigneur qui nous enseigne que ce qui est grand, c'est ce qui est petit. Que ce qui est fort, c'est ce qui est faible. Et bien ça, on n'y arrive pas. Parce que dans notre mentalité mondaine, on peut aller à la messe tous les dimanches en ayant une mentalité mondaine d'ailleurs, en pensant que là où ça brille, là où c'est grand, c'est quand même mieux. Vous voyez, il y a une conversion à vivre, qui est de rentrer dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, ben, ce n'est pas exactement comme ça que nous pensons. Nous aimerions bien servir le Seigneur, mais il nous tombe une maladie sur le coin de la tête et on se dit « Oh ben quel dommage, je ne peux pas servir Dieu puisque je suis malade. » Alors qu'en fait, le Seigneur te propose justement le chemin de la maladie comme la manière dont tu pourras le glorifier. Et puis, il y a une troisième étape qui est de venir à la crèche. Parce que nos amis les scribes, ils ont entendu l'oracle, ils ont vu les mages venir à cause de l'étoile. Donc ils savent qu'il y a un Messie qui est en train de venir. Et pourtant, ben, ils restent chez eux. Il y a un moment, il faut sortir. Sortir de notre confort et puis aller vers lui et adorer le Seigneur. Avec cette phrase magnifique, ils virent l'enfant et sa mère Marie et ils se prosternèrent devant lui. Bon, ils ne se prosternèrent pas devant eux. Ils se prosternèrent devant lui. Parce qu'on n'adore pas Marie, on la vénère. Mais on adore le Seigneur. On l'adore parce qu'il est vraiment Dieu et que l'on n'adore que Dieu. Et donc, il nous faut retrouver, c'est la troisième étape, l'adoration. L'adoration, c'est redonner à Dieu la première place dans notre vie. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée et sans eau. Et lui offrir nos présents, offrir notre temps, nos capacités, nos moyens, nos péchés, nos impuissances, nos désirs, nos contradictions, nos capacités. Seigneur, te bénissons pour ce cheminement auquel tu nous appelles. Te bénissons pour ce livre de la nature par lequel tu nous parles. Te bénissons pour ce livre de l'Écriture sainte que tu nous donnes et qui nous parle également de toi. Nous te bénissons aussi, Seigneur, parce que nous pouvons venir t'adorer, que tu es réellement présent en cette Eucharistie. Et lorsque tout à l'heure nous nous mettrons à genoux, pour ceux qui le peuvent, lorsque nous mettrons à genoux devant toi, que nous reconnaîtrons ta sainte et forte présence et puissance, donne-nous, Seigneur, de tout te donner. Tu t'es donné à nous, nous voulons nous donner à toi, te reconnaître comme le roi de nos cœurs et repartir sur un chemin nouveau, celui que tu nous donnes pour avancer vers toi. Amen.